Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Okapi. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Étoile. Nous recevons aujourd'hui un entrepreneur. Il s'identifie lui-même comme étant l'homme qui fabrique les drapeaux. Monsieur Samuel Yamungu, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes, je l'ai dit, entrepreneur, hein, directeur général du groupe Cirrus Corporation et surtout directeur général de Cirrus FNP, FNP pour Flags and Pole. Vous êtes dans la production ou la production, hein, on va dire, des drapeaux et des mâts. L'une des plus grandes références est le drapeau qui se trouve devant le palais du peuple. Il a été produit, conçu par Cirrus FNP.
Oui, il n'y a pas que celui qui est devant le palais du peuple, il y a celui aussi qui est devant le gouvernorat du Haut-Katanga et puis celui que vous verrez bientôt devant le palais de la nation et la cité de l'OEA.
C'est ce que je dis, hein, c'est l'une des références en tout cas. On se dit, on n'avait jamais vu un drapeau aussi grand et aussi haut. Alors, pour la petite histoire, le mât de ce drapeau fait 40 mètres, me dites-vous, et le drapeau lui-même mesure 150 mètres carrés.
Équivalent à 15 mètres sur 10. Mm-hmm. Donc, on peut se permettre de dire que c'est le plus grand drapeau d'Afrique centrale et australe. Donc, vous irez même en Afrique du Sud, vous n'allez pas le voir. Vous pourrez aujourd'hui vous dire que si vous le voyez en tant que Congolais dans un pays, vous serez décomplexé en disant, nous, on a ça chez nous.
Alors, vous m'avez cité quelques pays hein, qui ont des drapeaux aussi élevés. Pour vous, vous me dites, l'idée, c'était pas seulement de faire partie du livre Guinness des records, mais c'était aussi pour transmettre la fierté de l'appartenance à une nation. Mais j'aimerais surtout que vous nous parliez justement, que vous nous racontiez la petite histoire autour de ce projet-là, ce drapeau de 150 mètres carrés.
Je vous remercie d'abord de l'occasion que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer et transmettre un peu peut-être mon expérience. Et peut-être cela pourrait inspirer plus d'un jeune à croire en lui-même et à croire surtout en son pays parce qu'on n'a pas un autre patrimoine que Dieu nous a donné que notre pays. L'idée dans cette démarche était de pouvoir promouvoir la fierté d'appartenir à la plus grande nation francophone du monde, à une nation qui a fait des choses qui ont fait bouger les lignes de l'histoire même du monde que beaucoup ignorent. Parce que vous savez, je ne suis pas que fournisseur de drapeaux, je suis au-delà du fournisseur de drapeaux, je veux simplement dire, comme notre slogan dit, on est fournisseur de fierté, pour pouvoir faire de la vantardisme de la fierté congolaise, je devais éventuellement complètement absorber la culture, l'histoire de mon pays, l'histoire de tout ce qui s'est vécu avant nous, pour qu'aujourd'hui je puisse dire que je suis réellement fier d'être congolais et de la plénitude de ma fierté, j'ai voulu la transmettre aux autres.
Samuel Yamungu, vous êtes né à Kinshasa, vous y avez grandi, vous avez beaucoup voyagé hein, à travers le pays, vous êtes diplômé d'art plastique de l'Académie des Beaux-Arts, vous avez fait au fait architecture d'intérieur. Alors, à la fin de vos études, vous allez en Suède pour suivre une formation dans le domaine de la gestion des entreprises. Vous me confiez aussi que vous n'avez jamais été salarié du tout, parce qu'à chaque fois que vous avez voulu intégrer une entreprise, écrire des lettres de demande d'emploi, ça n'a jamais marché pour vous.
Bon, je dirais comme on dit en lingala makila mabe. Je crois que le destin m'avait destiné à être plutôt entrepreneur, à être propre patron de moi-même, parce que quand j'ai voulu le faire dans le schéma classique, pour être employé pour une structure, et je me souviens même à l'époque, quand c'était quoi, aujourd'hui on vous appelle MONUSCO, n'est-ce pas, à l'époque c'était la MONUC, vu que je parlais plusieurs langues, venant d'abord des vernaculaires de chez nous, ici les quatre langues je les parle, et en dehors de ça il y a d'autres langues toujours du Congo, je parle à peu près sept langues vernaculaires, et en dehors de cela je parle six langues internationales. Et donc par rapport à cela, j'étais aussi dans la liste des personnes qui devaient être engagées ici à l'époque. Voilà, ça n'a jamais abouti. Et au-delà de ça, tout ce que j'ai essayé de pouvoir faire concourir dans le sens à me faire employer, ça n'a jamais tenu. Et c'est là que je crois que j'ai compris que j'étais fait pour pouvoir exprimer le talent que j'avais pour donner des solutions à mon environnement.
Vous avez initié certains projets, me dites-vous, qui ont quand même pris corps. Après la Suède, vous êtes resté en Suède pendant un an, hein?
Bon, la Suède, c'est un pays de cœur pour moi. Même si je ne suis plus physiquement là-bas, c'est un pays où j'y vais souvent et que j'aime beaucoup. J'aime la culture, j'aime le style de vie. J'y suis resté pendant quelques années et puis ça a permis que je puisse aller après en Afrique du Sud pour aller faire une autre formation dans le domaine des drapeaux, par
exemple. Juste pour rester encore là à l'étape de la Suède, quand vous y étiez, vous faisiez partie d'une chambre de commerce qui vous emmènera justement, en tout cas, c'est par ce canal-là que vous allez justement en Afrique du Sud pour suivre une autre formation, parce que pour vous, votre chemin professionnel commençait un peu déjà à se dessiner.
Oui, j'en suis toujours membre, je suis membre de la Chambre de commerce chrétienne internationale qui en sigle c'est ICCC, that is International Christian Chamber of Commerce, dont le siège se trouve à Örebro, c'est une ville de Suède, et cette organisation de chrétiens dans le domaine des affaires, c'est plus ou moins aujourd'hui dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Et voilà, c'est vrai que par ce billet, j'ai eu à pouvoir être brassé par le monde des entreprises et de l'entrepreneuriat qui fait en sorte que je puisse aller en Afrique du Sud pour un temps, à peu près une année. Et c'est là que j'ai eu à pouvoir développer ce côté côté flags, côté drapeau, et me disant quand je reviens au pays, je voudrais apporter quelque chose que l'on dirait, tiens, c'est comme chez nous.
Alors, je vous propose de marquer une pause, puis nous revenons pour la suite de cet entretien. C'est la suite du magazine Étoile. Nous recevons aujourd'hui Samuel Yamungu, entrepreneur et directeur général de Cirrus Flags and Pole. Alors, nous sommes, Monsieur Samuel, à l'étape où vous arrivez justement en Afrique du Sud. Nous sommes, je pense, début des années 2000. Vous y restez pendant un an, vous me dites, en prospection. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Vous faites des formations? Vous savez plus ou moins dans quoi vous voulez vous orienter?
Je suis en train de faire en ce moment-là, avec la société National Flags que j'ai à un moment représentée ici, j'ai commencé à faire une formation complète dans tout ce qui était l'essence du drapeau. Et je me suis rendu compte que j'avais cette passion dans ce tissu qui affirmait la symbolique du pouvoir. Et je sais pas si peut-être c'est à cause du fait, comme on dit, l'environnement corrompt. L'éducation que j'ai reçue, c'est que je suis né dans une famille de culture. Et à l'époque, déjà, nous regardons beaucoup des films des Buck Lancaster et autres, des vieux films de l'époque où on parlait de la guerre de la première ou la deuxième guerre mondiale et tout ça. Et j'étais souvent passionné par le fait que quand il y avait une nation qui arrivait à conquérir
un territoire,
oui, une terre, il plantait son drapeau.
Oui.
Donc ça voulait simplement signifier que pour dire que cet endroit, c'est moi. Ce domaine-là, c'est moi. Alors c'est ce sentiment que je me suis dit que je voulais partager avec le marché. Pour dire que voilà, pour les entreprises, si vous êtes dans les télécoms, vous êtes dans le pain et ainsi de suite, si vous plantez le drapeau, c'est pour affirmer que dans ce domaine, c'est moi. Et pour le pays, il était aussi important, d'autant plus que dans les années 2000, il y avait déjà ce bouleversement de changement de régime et tout ça. On venait de 97 et autres qui faisaient que le régime avait changé. J'ai dit, il était aussi important d'apporter un peu cette petite contribution civique et surtout d'affirmation d'appartenance.
Alors, vous rentrez au Congo, vous le dites, la situation politique, hein, socio-politique tend à se stabiliser. Mm-hmm. Vous voulez apporter votre pierre à l'édifice et donc vous faites naître ce petit bébé, Cirrus Flag and Poles. Pourquoi Cirrus?
En fait, je suis croyant et Cirrus, pour moi, au-delà du fait que Cirrus, c'est le nom d'une constellation d'étoiles et autres, mais moi, mon inspiration est venue plutôt dans le livre de Ésaïe 44 et 45. Quand on parle de ce roi Cirrus par le prophète Élie, qui parle de Ésaïe plutôt, il parle de Cirrus 300 ans avant qu'il ne puisse même naître, en disant que Cirrus avait été conçu pour pouvoir atteindre, accomplir les desseins de Dieu, pour délivrer Israël, pour lui accorder ceci, cela. On parle de lui avant qu'il ne puisse naître. Alors je m'étais dit, allez, je vais lancer de prétention pour dire que dans le domaine du marché, je veux être une solution pour les gens. Si Cirrus était destiné depuis 300 ans avant, pourquoi pas moi?
Alors vous me dites aussi, ça c'est pour parler de la conception du drapeau lui-même, hein, c'est de la vie que vous devez donner à ce que nous on voit de loin comme étant tout simplement un morceau de tissu. c'est bien beaucoup d'autres choses. Hein. Ce que vous arrivez à faire, c'est de concevoir parfois les logos, concevoir, savoir quel tissu il faut mettre, à quelle hauteur. On est curieux de savoir comment est-ce que vous arrivez à fabriquer, entre guillemets, le drapeau ou un drapeau. Celui qui se trouve devant le Palais du Peuple,
vous
par
savez
exemple.
D'abord, avant de pouvoir parler de celui du Palais du Peuple, il faut d'abord comprendre une chose, c'est que un drapeau, c'est l'expression de la volonté d'une organisation ou d'un peuple à pouvoir afficher leur identité par l'addition de ces couleurs. Et il est impératif et important de savoir respecter les couleurs parce que chaque couleur a un sens et a une vie et mérite respect. Donc ça veut dire pour chaque nation, il existe des couleurs qu'il faut se respecter au travers de ces pantones pour que ces pantones-là ne soient pas faits comme le bleu d'un jeans ou bien d'un bleu comme celui de la France. Chaque bleu a un sens. Et pour les entreprises, la même chose. Donc il est important au-delà du tissu, important de pouvoir respecter les couleurs. Et au-delà même de cela, maintenant, il faudra aussi comprendre ce drapeau, tu veux le placer où? À l'extérieur, à l'intérieur? Est-ce que c'est juste pour un événement festif? Parce qu'il n'y a pas, vous savez, pour le commun mortel, penserait que le drapeau, c'est juste l'addition des couleurs. Non. Pour les drapeaux qu'on va utiliser pour les événements sportifs au stade, c'est pas les drapeaux qu'on va mettre dans un bureau ou bien qu'on va mettre devant un bâtiment administratif.
C'est quoi toutes ces différences là? C'est ça que nous voulons comprendre. C'est ça que nous voulons que vous.
La différence est dans la matière. Je veux pas vous citer toutes les types de matières, ça sera scientifique ici, mais il faut juste savoir qu'il y a plusieurs types de matières, de tissus, mais les couleurs sont les mêmes. Mais savoir maintenant le contexte d'expression de ce drapeau là, d'affichage de ce drapeau, c'est administratif, c'est festif. C'est pour une corporation, pour une entreprise, et toutes ces choses rentrent en ligne de compte. Et ce que je veux dire, c'est qu'il est important de savoir. Il y a une dimension standard du drapeau. La dimension standard du drapeau, c'est 1m80 sur 1m20. Ça, c'est universel. Donc, pour celui qui doit être mettre à l'extérieur, celui que l'on connaît, tous ceux qu'on connaît de manière classique, ce sont des drapeaux de signalisation de territoire. Ils sont 1m80 sur 1m20. Et maintenant, quand il faut aller maintenant bien au-delà de ça, comme par exemple celui du Palais du Peuple, ça c'est pas forcément un drapeau directement de signalisation. C'est un drapeau de prestige. C'est un drapeau d'affirmation de fierté. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est que passer dans cette dimension-là, ça demande aussi une technologie. Ça demande aussi une âme qu'il faudrait distiller ou bien communiquer pourquoi est-ce qu'on veut amener ce drapeau à cette hauteur. Parce que celui-là, par exemple, celui du Palais du Peuple, il fait 15 mètres sur 10. La surface équivaut à 150 mètres carrés. Et le même drapeau, quand vous le voyez dans un carton, avant qu'il soit mis à l'épreuve du vent, il pèse 16 kilos. Mais dès qu'il est ouvert...
Ce drapeau-là pèse 16 kilos?
16 kilos seulement. Vous n'êtes pas encore au bout de votre surprise. Wow. Je vais encore vous épater. Mm-hmm. C'est que le même drapeau, dès qu'il est déployé au vent, il pèse 300 kilos. Et d'où? Dans ce mât que vous voyez, il y a un moteur d'une tonne qui s'occupe à faire monter le drapeau. C'est un drapeau qui monte de manière électrique. Parce qu'avec la main de l'homme, c'est pas 10 personnes qui pourront le soulever, c'est difficile. Donc, il faut respecter le drapeau, lui donner l'élégance, lui donner la motorisation élégante et de dignité. Et c'est pour ça que ce genre de drapeau, on dit que ce sont des drapeaux de prestige. Et aujourd'hui, la RDC, elle est rentrée si, sans le vouloir, hein, parce que le but pour moi, quand j'ai eu à pouvoir, au travers de mon entreprise, mettre cela sur le marché, c'était simplement contribuer, comme j'ai parlé de Cyrus, dans la promotion de l'unité du peuple congolais, parce que j'ai tellement, en étudiant mon pays, je me suis rendu compte que nous sommes un miracle, nous sommes une beauté. Nous avons 450 ethnies. Il y a de ces pays qui ont 2-3 ethnies, ils se déchirent. Mais nous, on est 450. On peut avoir des fois des différends, mais jamais aucune tribu ne pourrait imaginer dans son subconscient que telle nation, telle tribu ne soit plus à côté d'elle. Alors, il était important de savoir aussi mettre ça en valeur.
Hisser ce drapeau, c'était le symbole de l'appartenance à une seule nation. On le rappelle encore, nous sommes dans un contexte où le pays tend à se stabiliser politiquement. Mais au-delà de cela, quand vous concevez le projet, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ça pouvait passer ou casser? Est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? Comment je vends la chose pour que justement un plus grand nombre de Congolais adhèrent justement à mon idée?
Madame, vous avez eu à me présenter comme étant un entrepreneur. Et je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le goût du risque. C'est ézui. On parlerait comme ça en quinois. Ézui. Parce que j'y croyais tellement. Et si vous-même, vous êtes suffisamment convaincu, vous pourrez être convaincant. parce que c'est quelque chose qui n'est pas né du jour au lendemain. J'ai mûri la pensée, j'ai étudié la chose, ça m'a amené à faire encore des études dans le domaine technologique, parce que pour arriver à bâtir ce drapeau-là, c'est du génie civil, c'est de l'architecture, c'est de la maçonnerie, c'est de l'électricité, parce que ce mât, il a un paratonnerre. Dans l'environnement de ce mât-là, s'il y avait une foudre, vous êtes protégé. Parce qu'au fait, c'est qu'il permet de pouvoir absorber le tonnerre et le jeter dans le sol, dans le sous-sol, et faire en sorte que cet espace soit sain. Donc il n'y a pas que le côté drapeau, parce que
tout ça est minutieusement étudié.
Tout est dedans. Oui. Parce que vous verrez que sous le sommet de ce mât-là, il y a une petite lampe balise. C'est pour les avions, pour que aucun avion ne puisse voler à cette hauteur-là, en sachant qu'il y a une hauteur, parce qu'elle équivaut plus ou moins à 12, à un bâtiment de 12 niveaux à peu près. Si je dois essayer un peu de faire l'équivalent en termes de bâtiment pour comprendre un peu ce que c'est. Donc c'est pas quelque chose que tu fais comme ça parce que tu veux le faire. Tu l'étudies. Et qu'est-ce qui m'a poussé réellement à le faire? C'est parce que simplement, en fait, c'est que quand j'ai découvert la pertinence, la percée, la profondeur de l'âme de l'histoire de mon pays, je me suis dit qu'on méritait ça.
Marche! Marche! Accroche-toi! Kinshasa, na mboka Congo, moto moko te awanase abota mapaka. Le début c'est la jeunesse, tobo sanate. Abale koulouner, abale violence na Congo, et que vive la paix et dialogue. C'est très important pour na Congo ya lobby. Betalisa biso ba peuple congolais, regarde vers le futur pour l'avenir ya mboka. Amour et fraternité régner na mboka Congo, abat les prétentieux. Nos idées bébés, nos efforts bami.
Tobone la dame tata, tika bisote.
Atika bisote banana ye. Coche Maria, peuple congolais, intégrité en Boca Congo et l'avenir à jeunesse. Total à le présent et le futur, oublions les passés enterrés. Poba jeune de mini bâton d'imboca, espoir c'est pas un abisso. Aba la calomnie, nos idées bami, nos efforts chéris. Kabisote banana ye, ikuye na nguvu, ikala imbote, ikala bipa. Nos idées mes frères, nos idées mes
sœurs.
Pour la jeunesse de demain, délinquance, banditisme, kuluna, et toboye mbona Congo. L'esprit a bien.
Tobone la ndambe tata, tika bisote.
génération en génération. Car l'avenir, c'est la jeunesse. Tous à la foi, la conviction.
Alors, Monsieur Samuel Yamungu, nous sommes en 2002. Vous décidez de rentrer au Congo. Vous montez votre société qui s'appelle Cyrus. Et vous arrivez à obtenir votre premier marché avec un établissement hôtelier de la place. Mais dans cette âme ou dans cette fièvre de l'entrepreneur, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que réellement ce concept de fabricant, entre guillemets, de drapeaux, ça va marcher ici au Congo, à Kinshasa? Ou pas?
J'ai peut-être par défaut l'habitude de, quand je me lance à entreprendre quelque chose, je ne le fais pas pour échouer. Je me dis pas que ça ne va pas échouer, ça ne va pas réussir. C'est vrai que mon premier client à l'époque, c'était un grand hôtel qui est connu ici, qui autrefois appartenait aux Américains. Et quand ça a changé de main, ils n'avaient pas de logo. Et j'étais venu leur proposer cela. Et ils avaient des drapeaux qui venaient de Made in Samuel, Made in Cyrus. Et au-delà de ça, nous avons commencé à produire d'autres pour d'autres entreprises, pour les ambassades qui autrefois leur drapeau venait par valise diplomatique. Et maintenant, nous, on leur disait, ne vous préoccupez plus de ça, c'est nous qui pourrons faire cela pour vous. Et puis voilà. Et puis on a commencé à aller petit à petit, et puis arriver à consolider notre notoriété. Et puis bon, en dehors de ça, bon, nous avons essayé de faire d'autres petites choses pour des entreprises pétrolières, par exemple à l'époque. Nous fournissions au-delà des drapeaux, nous fournissions des tenues pour les pompistes, des chaussures de sécurité. Donc je suis rentré dans autre chose, parce qu'à un moment, quand tu ne vendais pas le drapeau, tu devais vendre autre chose.
Il fallait faire autre chose.
Voilà.
Alors en 2010, c'est les préparatifs des 50 ans d'indépendance de la RDC. Vous réussissez comme ça à vous frayer votre petit chemin,
ouais,
et à avoir ce marché, entre guillemets, pour la production ou la fabrication du drapeau.
Oui, voilà.
Mais là encore autour, il y a quand même une petite histoire.
Mais je commençais déjà à imaginer l'avenir. J'imaginais l'avenir dans le sens que si aujourd'hui on parle d'avenir, c'est ce que nous vivons déjà aujourd'hui, par exemple quand on parle de ce grand drapeau. À cette époque-là, déjà, je me dis, la RDC se préparait à pouvoir faire les festivités des cinquantenaires. Fort de mon expérience dans le domaine du drapeau, on m'appelait déjà Monsieur Drapeau, je me suis, comment dire, avec cette expertise-là, faufilé dans ce marché-là, parce que c'est un marché dans lequel j'étais pratiquement seul à pouvoir proposer des services. J'ai pu avoir, à être une réponse pour la police, pour l'organisation des cinquantenaires, en produisant des drapeaux qui devaient être qui devaient servir à être mis dans la ville et pour la police et puis voilà.
Vous lancez à la même période une campagne dénommée Tombola Bendele, dont le but toujours, vous me dites, de promouvoir l'appartenance à une seule nation.
Oui, au fait, c'est que fort du fait que je me suis tellement imbibé de ce qu'était drapeau, nation et autres, que je constatais qu'autour de moi, à cause de la politique, les gens avaient tendance à se tourner le dos, à oublier qu'ils avaient quelque chose de précieux, qui était leur nation, qui étaient les différentes richesses que nous avions, et que nous avons toujours tendance à regarder que le gazon, il est plus vert chez le voisin et autres. J'avais juste envie de me dire, je vais participer à sonner un genre de clocher pour que les gens regardent à moi au travers du produit qui les honore et qui les unit. Et pendant qu'on s'occupait de ça, j'ai commencé à faire naître l'idée a commencé à germer en moi pendant la préparative de cinquantenaire. L'idée a commencé à germer en moi l'idée de mettre sur pied le projet de Tombola Bendele pour dire ils sont le drapeau. Parce que j'ai voulu promouvoir le drapeau, pourquoi? Non pas parce que c'est un produit que je vends, soi-disant, non. Mais parce que simplement, le drapeau, c'était le seul produit qui fait taire les clivages. Parce que quand on est face au drapeau, on n'est ni de la mouvance, ni de l'opposition, on n'est ni militaire, on n'est ni civil, on n'est ni femme, ni homme, on est juste congolais. Donc je pense qu'il y a un moment que nous puissions savoir c'est quoi l'essentiel. Notre essentiel, c'est la nation. Après, maintenant, on va dans les superlatifs.
Alors, est-ce que justement ces projets que vous entretenez ou que vous entreprenez, pardon, partent aussi du fait que vous avez beaucoup voyagé à travers le pays, le fait que vous parlez les quatre langues nationales? Vous avez eu même l'honneur de rencontrer les présidents de la République, les nôtres, évidemment. Est-ce que ça part de tout ça?
Non, mais à ce moment-là, vous savez, si hier je pouvais rencontrer un président, parce qu'à l'époque, le président que je connaissais, c'était le président Mobutu, peut-être par rapport à des liens de famille, qui fait en sorte que je pouvais être proche de lui comme président, premier président que moi j'ai vu de ma vie d'enfant à l'époque. Et bon, les autres, je les ai connus par le travail que je fais. Mais je ne pense pas c'est le fait que j'ai rencontré des présidents qui m'ont donné cette inspiration au drapeau. Non, je pense que c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de naître dans une famille de culture. Et nous avons beaucoup l'habitude de regarder des films d'histoire, histoire et puis souvent on lisait. Et puis surtout, quand je voyageais, je me présentais comme Zaïrois à l'époque ou encore comme Congolais. Les gens me regardaient différemment et me disaient ce qu'il y avait de bien de mon pays. Et quand je revenais chez nous ici, souvent je voyais les gens parler que du mal. Et j'avais comme un genre de sentiment de sainte colère comme ça. J'avais juste envie de vous dire, écoutez, en dehors de dire que du mal, parlons de ce que nous avons de bien. Alors maintenant, je pense que c'est tout ça s'est synthétisé au travers du drapeau. C'est comme ça que j'ai voulu faire de ce drapeau mon champ d'action dans le domaine de l'entreprise.
Votre champ d'action dans le domaine de l'entreprise, votre slogan, c'est « fournisseur de fierté ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez atteint votre objectif ?
La fierté, elle n'est pas une destination géographique. C'est une destination idéologique et qui est sans fin. On y arrive tous les jours, on y arrivera toujours. Ça veut dire on y arrive un moment et puis alors on y arrivera un instant et puis on doit y demeurer. On doit y demeurer. Pourquoi? Parce que quand on a un sentiment de fierté, nous faisons des choses qui sont dignes. Si je peux dire est-ce que j'y suis arrivé, j'ai envie de dire oui et en même temps je vais continuer. Pourquoi? Parce que notre slogan c'est fournisseur de fierté. C'est parce que quelqu'un m'a dit une fois, mais c'est assez prétentieux votre slogan. Je dis, mais prétentieux pourquoi? Alors je lui ai juste posé la question, quel est le premier sentiment que tu as eu le jour que tu as vu le grand drapeau au Palais du Peuple? Il me dit, ça m'a fait des frissons, je me suis senti fier, voilà, je sais que je t'ai fourni. Mais on est au-delà de ça, je vais continuer à fournir la fierté au travers des événements, au travers de l'explication de ce qui est Congo. Comme tout à l'heure, je voulais vous expliquer en disant même durant la Deuxième Guerre mondiale, nos arrière-grands-pères qui étaient dans la force publique, ils ont combattu les Allemands au niveau, d'abord en 1914 au niveau de la Tanzanie, c'est comme ça que nous avons ici chez nous les avenues comme Kigoma, Dodoma et autres. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, vous connaissez l'avenue Sayo. Sayo c'est où? C'est en Éthiopie. Notre armée a été comme un peu aujourd'hui l'armée de la MONUSCO qui était, on était importé, on nous importait pour aller résoudre des problèmes. Notre armée est arrivée à pouvoir restaurer le pouvoir de Ali Selassie qui était parti à cause du fait que le président italien l'avait fait partir du fait que voilà, c'est que c'est passé.
Et donc pour répondre à ma question, vous y êtes arrivé?
Je suis arrivé parce qu'aujourd'hui quand vous m'appelez pour que je puisse parler de cette fierté là, je deviens plus ou moins, si tu veux, un canal d'expression de l'information qui doit garder le Congolais fier, de ne pas regarder les réalités de ce qui peut se passer aujourd'hui, mais il est important de savoir d'où nous venons, parce que si nous savons d'où nous venons, nous devrons être fiers aujourd'hui pour nous permettre de faire des actions de bravoure pour demain et encore et encore et encore.
Alors la dernière question pour terminer, Samuel Yamungu, c'est plus l'âme du patriote ou l'âme de l'entrepreneur?
Je pense que l'entrepreneur, c'est celui qui apporte les solutions pour les politiques et pour les nations. Parce que les politiques ont des rêves, mais les entrepreneurs ont les moyens de réaliser les rêves. Ça veut dire que quand on parle de l'emploi, on parle de ceci, ce n'est pas les politiques, c'est nous les entrepreneurs. Enfin, au travers de nos produits, nous savons engager, nous savons communiquer, nous savons valoriser, parce que les politiques créent des cadres. Et nous, les entrepreneurs, on crée des moyens. Donc, c'est les deux.
Donc, merci.
Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Samuel Yamungu. Vous étiez notre invité pour le magazine Étoile. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Cyrus Flags and Poles. La plus grande référence, c'est justement ce drapeau devant le Palais du Peuple, mais aussi devant la mairie...
le gouvernorat.
Devant le gouvernorat.
Du Haut-Katanga.
Du Haut-Katanga. Merci d'avoir été notre invité. Mimi Kindo a assuré la mise en onde de cette émission. Était au micro Nana Bolojoy Aliomoto. C'est avec plaisir que je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.